CIBL 101.5 FM Montréal.
CIBL 101.5 Montréal.
Vivre Montréal.
Alors, ici c'est IBL. On entre en onde bientôt. Dans 5 minutes.
CIBL 101.5 au cœur de Montréal.
Allô, allô à tout le monde. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à Trait d'Union. Bonjour, équipe.
Bonjour. Allô.
Bonjour, visite.
Bonjour.
On a Anaëlle avec nous, jeune journaliste qui part bientôt explorer l'Asie pour une première, deuxième, troisième fois.
Première fois.
Quelle région de l'Asie?
Thaïlande, Laos, Cambodge et Vietnam.
Oh, wow. Super. Mais. Ben là, c'est ça. Ariane n'est pas avec nous aujourd'hui. On le remercie d'ailleurs, Anaëlle, d'être avec nous. Ariane, donc, doit s'absenter pour quelques semaines, puis elle devrait revenir bientôt, là. Ça file pas, mais bon, elle va revenir. Quant à nos aides, que dire? Ben la session hiver-printemps semble être exigeante.
C'est pas le bon moment.
Non, c'est ça, là. T'sais, ils ont d'autres choses à faire que venir faire de la radio avec nous, mais je suis sûre que ça leur manque énormément. Donc, aujourd'hui, on aborde le bonheur. Comment est-ce qu'on aborde ça, le bonheur? Ben, c'est quoi sa définition? Est-ce que ça se transmet? C'est pas une maladie, là, mais bon. Est-ce que ça peut évoluer? Quels sont les ingrédients du bonheur? Il est pour qui, le bonheur?
Il est où, le bonheur? Il est où? Il est où?
Ou encore?
C'est quand le bonheur?
Je crois que pour moi, le bonheur, c'est d'être aligné entre nos valeurs et ce qu'on fait, et ce qu'on vit. Donc, si une des valeurs pour moi, par exemple, c'est l'honnêteté, c'est la transparence, c'est la générosité, ben, je vais m'assurer que ma vie représente ça, puis que les gens autour de moi représentent ça. Puis si ça arrive, ben, je pense que je suis pas loin du bonheur. Quand maman, elle fait des caresses?
Oui.
C'est quoi?
Du bonheur.
Est-ce que le bonheur, c'est être heureux?
Ben, le bonheur, pour moi, c'est pas juste une chose comme être entouré de sa famille, de voir un coucher de soleil ou de manger des chips. Le bonheur, pour moi, c'est un ensemble de petits bonheurs, comme on dit, qui s'additionnent comme être avec sa famille, dans un bon souper. Ça, c'est un bonheur.
Ben, le bonheur, c'est facile. C'est les petites joies de la vie. Le café le matin, aller marcher sur le bord du fleuve. Les contacts humains, beaucoup, surtout aussi. L'amitié, l'amour. C'est ça qui reste à la fin, puis c'est ça qui rend heureux. C'est petit, c'est pas grand, c'est pas de l'argent, c'est pas des possessions, surtout pas des possessions. Alors c'est ça, voilà, c'est le bonheur pour moi.
Moi, je trouve que le bonheur, c'est passer du temps en famille.
Moi, quand je ressens du bonheur, c'est lorsque je suis fière de moi et quand je fais des activités que j'aime, comme le sport. Pour l'avoir au maximum, c'est d'être surtout avec des gens qu'on aime.
Ah, le bonheur! Mais c'est une très grande question. Je te dirais que le bonheur, il vient à la capacité d'atteindre un état de détente le plus absolu. Moi, pour moi, il est là, le bonheur. Et c'est-à-dire être capable de se faire envahir par des pensées positives et qui font en sorte que, si on devait les décrire, elles nous donnent le sourire. Voilà.
Le bonheur, c'est quand on s'y attend pas, puis qu'il arrive, qu'il apparaît au coin de la rue, puis qu'on l'avait pas calculé, on y avait pas pensé, on l'attendait pas, et il est là, puis on sait le saisir, on sait l'attraper. C'est un instant, le bonheur, mais il faut savoir le capter.
Moi, je vois le bonheur, en fait, oui, comme un instant impromptu qui peut arriver de partout, mais je pense qu'à la base, le bonheur, c'est... En fait, c'est ce qu'on s'approprie de soi-même, de ce qu'on dégage, de ce qu'on a envie de vivre. Le bonheur part de soi-même. Puis plus qu'on est heureux avec soi-même, ben on est capable de partager ce bonheur.
Pour moi, le bonheur, c'est la joie, être en famille et faire des activités qu'on aime.
On a mieux à essayer d'atteindre le bonheur et que ça s'acquiert peut-être avec le temps, peut-être une notion de plus... moins simple à atteindre, peut-être.
Ouais. C'est que j'ai le cœur léger, j'ai de la joie et des fois j'ai envie de rire et de sourire. Puis quand je sens le bonheur, toutes mes émotions sont positives.
Oui, ben pour moi, le bonheur, c'est un sentiment de liberté, d'ouverture, de légèreté de l'esprit. C'est un moment où on dirait que quand on s'en rend compte, on a l'impression que tout est possible. Puis il y a de l'espace pour... En fait, il y a de l'espace pour l'esprit, puis il y a de l'espace pour le corps, on dirait. Moi, je le sens comme de l'espace.
Et ouais, c'est ça qui décrit le bonheur.
Qui est Julien? Qui va nous revenir plus tard dans l'émission pour ses nouvelles du sport? Alors, c'est ça le bonheur pour les gens autour de chez moi. Mm-hmm. Et pour vous, chère équipe, je vais commencer par la dame qui m'accompagne.
Bien, pour moi, le bonheur, c'est des instants, mais plus je me rends compte que plus je vieillis, plus je suis résiliente, plus je m'abandonne au bonheur. Donc,
tu te l'empêchais?
Bien, en fait, j'ai comme l'impression que... Les petits problèmes de la vie, quand on était plus jeune, prenaient bien de la place à comparer à tout le reste, tu sais. Mm-hmm. Donc, puis à force d'avoir vécu des moments de tristesse, là, beaucoup de décès dernièrement. Non, mais je parle de ça parce que je me suis rendu compte que j'étais résiliente.
OK.
Puis la résilience fait que on est plus libre, en quelque part, tu sais, de vivre un certain bonheur. Tu sais. Mm-hmm. Je peux marcher sur la rue, puis mm-hmm. le soleil apparaît, puis là, je sens un élan de liberté et de bonheur. Je peux faire du bénévolat, et je suis très heureuse d'en faire, parce que je donne sans l'obligeance de recevoir.
Ouais, c'est
tu sais.
Ça. Sans attente.
Exactement. Puis en ce moment, bon, naturellement, je suis à la retraite, je le dis souvent, là, mais...
C'est comme ça quand ça commence, mais après, on se tente. C'est un peu comme le bébé qu'on vient d'avoir, tu sais.
Oui, bien là, ça fait quand même, ça va faire pas loin d'un an et demi, là. Ça s'en vient. Mm-hmm. Puis je fais vraiment ce que je veux.
Quand tu veux.
Quand je veux. Et je trouve que le fait d'être heureuse, d'avoir le sourire, ça attire le monde qui sont heureux eux
absolument.
Aussi. J'ai plus besoin, moi, d'avoir du négatif dans ma vie, puis de toujours voir des gens qui se plaignent. Ça peut arriver à l'occasion des gens qui vivent des grosses étapes, mais sinon, moi, c'est ça, une musique qui va me faire chanter tout à coup, qui apparaît à la radio, là, puis je me mets à faire du ménage, à chanter à tue-tête dans la maison.
Bien, c'est le meilleur moyen pour faire du ménage, en tout cas, là.
Tout à fait.
Oui.
Oui, alors moi, c'est ça, c'est pas faire des grandes choses, mais c'est faire plein de petites choses qui me rendent heureuse.
Bien, ça rejoint pas mal... plein de gens.
Oui, tout à fait. Oui.
Alexis, moi, on va finir avec notre invité.
Oui. Moi, j'ai envie de vous raconter une histoire. Puis là, vous allez peut-être être surpris. Puis là, vous
allez dire... Puis ta mère va réagir.
Elle va dire, où est-ce que tu t'en vas avec ça? Parce que j'ai envie de vous parler de l'histoire d'Internet.
Ah, oui,
là, mais attends, j'en dis rien. Parce que... Bien, je vais vous parler de... des choses que vous deux, vous avez peut-être pas connues, mais que beaucoup de milléniaux sont très familiers avec ça, puis en fait sont même nostalgiques d'une certaine époque de l'Internet. Parce que...
Toi, t'es nostalgique d'une époque de l'Internet?
Oui.
Ah bon?
Parce que, avant, mettons, Facebook, ou dans les débuts de Facebook, là, tu sais, moi, j'étais au secondaire, c'était l'époque des blogs, du piratage de musique. YouTube en était à ses débuts. Il n'y avait pas d'algorithme pour faire la curation des contenus. C'est-à-dire que quand tu cherchais quelque chose, tout était 100% fait par des humains. Mm-hmm. On naviguait à l'Internet comme on entre dans une genre de grosse bibliothèque aux allées un peu zigzagantes puis toutes différentes parce qu'elles étaient comme faites par des gens selon leurs besoins spécifiques. Quand on se promenait dans la bibliothèque, on avait nos réflexes, t'sais, les allées qu'on préférait, les livres qu'on connaissait par cœur, puis des rangées un peu bizarres. On aimait ça prendre un livre au hasard pour essayer de trouver des trucs. Puis il y avait des livres dans lesquels il y avait des trucs écrits dans la marge. On rajoutait nos trucs dans la marge, puis on revenait la semaine d'après pour voir qui avait rajouté quelque chose. Puis finalement, la quête était au cœur de cette expérience-là, d'aller chercher, de pas savoir trop où on s'en allait. Mais c'était aussi le travail d'une communauté d'inconnus qui bâtissait ensemble quelque chose de le fun. Puis on était là pour chercher, c'est ça, on cherchait autant pour découvrir des trésors cachés que tisser des liens avec d'autres weirdos intéressés par les mêmes choses bizarres. Puis dans cette quête-là, nos besoins puis nos désirs ben, se formaient dans la quête, dans l'effort. On tirait du sens de tout ça. Aujourd'hui, ben, cette version d'Internet a, ben, pour beaucoup de gens, disparu. Et
dénaturé complètement.
Oui, parce que alors qu'avant, mettons, on allait chercher, maintenant les algorithmes nous cherchent. Et ils nous amènent des trucs ben, commandités. C'est une genre de curation de contenu qui est plus personnalisée, qui est 100% abondante, que, plus abondante que jamais, puis, mais surtout inhumaine. Parce que c'est quoi désirer dans un univers où le désir, c'est juste un bouton qui fait apparaître une réponse immédiate? Soudainement, on n'est plus dans une bibliothèque de choses mystérieuses à découvrir. Puis faites par des gens. On est debout dans un espace où des livres nous tombent dessus, puis avant qu'on s'en rende compte, on a les mains pleines d'affaires, qu'on sait pas c'est quoi, mais qu'on nous dit que c'est ça que tu veux. Puis finalement, c'est pas qu'on a plus de besoins, c'est que les besoins nous cherchent, puis nous traquent même. Puis ce que l'histoire d'Internet nous apprend sur le bonheur, à mon avis, c'est que c'est pas juste une histoire de... Tu sais, le bonheur, puis tu sais, les gens avec qui t'as parlé... C'est un peu ça qu'on voit. C'est pas une histoire d'avoir moins de besoins, plus combler ses besoins, être minimaliste, etc. Pour moi, c'est au-delà de, genre, c'est quoi un besoin? Puis c'est plutôt laborieusement tissé comme une toile intentionnelle avec d'autres gens dans une recherche de... Une recherche, tu sais. Donc, à l'aveugle et à tâtons, chercher de la, t'sais, sur Internet de la musique, des histoires, des jeux... mais aussi chercher sa place dans une communauté, parce que c'est dans la recherche qu'on se trouve soi-même. Mm. Fait que, quand on se trouve ensemble, ben, il est peut-être là le bonheur. Puis on peut se demander si ça ressemble à quoi une société où on arrête de chercher, puis il n'y a plus cette place-là. Fait que c'est ça, moi, que je voulais amener comme réflexion.
Ça a pris un chemin, mais c'est... Oui, l'analogie, elle... Oui, ouais. ça a du sens, ça a bien du sens, mon fils! Je comprends ton désarroi, puis oui. Ben, désarroi, puis... Est-ce que t'es déçu? Oui, hein?
Ben, il y a des gens qui essaient de revenir vers ça. Puis tu sais, là, je suis pas à Internet, c'est comme une métaphore de la société en général, là, vous avez compris. Il y a de plus en plus de gens qui essaient de faire des genres de mondes alternatifs à côté de Facebook, puis... Mm. De revenir à ça, puis autant sur le web que dans la vraie vie. Donc, je pense qu'on peut avoir espoir.
En fait, tu es en train de dire ce que plusieurs ont dit par rapport à la nature, à la société, à la gouvernance et tout ça, surtout après que j'ai vu tous les épisodes de l'émission de Hugo Latulippe. Je vais en parler dans quelques minutes. C'est justement une espèce de retour aux bases qu'il faut faire. Mm. Puis toi, Anaël, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, là?
Ben déjà, je trouve que c'est une question qui n'est vraiment pas facile.
Non,
de définir le bonheur, ça pourrait paraître simple, mais en fait, c'est assez difficile, j'ai trouvé. Mm-hmm. Je pense qu'il n'y a pas de définition générale du bonheur. Je pense que c'est subjectif. Il y a des influences sociales, il y a des influences de parcours. Je pense aussi selon les pays, la politique d'un pays. Si un pays est en paix ou en guerre, le bonheur, ça va être complètement différent. Mm-hmm. Mais quand je pense au Canada, notamment, je trouve qu'on est dans un pays qui nous vend beaucoup le bonheur. Mmh. Je trouve qu'il y a une industrie du bonheur qui s'est créée. Mmh. Il n'y a qu'à voir les publicités, quand on marche dans la rue. On est constamment sollicité à avoir du plaisir, notamment par la consommation. Et je trouve que paradoxalement, ben, ça crée aussi beaucoup de malheur. Ça crée un sentiment de manque chez les gens.
Mmh.
Et j'ai l'impression que mon rapport au bonheur a beaucoup évolué à travers le temps. Quand j'étais plus jeune, j'étais peut-être plus dépendant de cette logique de consommer pour être heureux, parce qu'on est constamment sollicité à ça. Et j'ai l'impression qu'avec le temps, je situe plus le bonheur dans les détails, comme on pouvait l'entendre dans les discours des gens que vous avez interrogés. Pour moi, c'est pas mal les relations. Mmh. C'est des moments que je vais passer avec des amis, dans un parc, par exemple. Mmh. Quand je vais pouvoir... aussi faire mes passions. J'aime bien l'art, j'aime bien la peinture, j'aime bien lire. C'est des moments anodins comme ça qui créent beaucoup de plaisir en moi, je crois.
Oui, on se rejoint tout le monde là-dessus. Mm. Eh bien, c'est ça. On va poser des questions à Hugo Latulippe tout à l'heure. Ça va être en deuxième demi-heure. Là, nous, on a tenté de répondre un peu à notre... Ben, j'ai pas répondu, moi.
Non, c'est vrai, hein? T'as pas répondu, toi.
Si on a le temps, je le ferai. Faut que je laisse le temps à mes invités. Donc, on parle aujourd'hui du bonheur intérieur brut. Pourquoi? Parce qu'Hugo Latulippe a commis cette série qui passe sur TV5 depuis mardi dernier, le 30 janvier. C'est à 20h, tous les mardis.
Ça le titre de la série, c'est
Bonheur intérieur brut. Ouais. Le projet Bonheur intérieur brut. Vous me posez la question, toutes et tous, mais qui est Hugo Latulippe, Louise?
Bien,
je vais vous le dire. Et dans le milieu du cinéma documentaire, depuis plus de 25 ans, il a participé à la course Destination Monde de Radio-Canada, que j'ai suivie de la première année jusqu'à la dernière. Pour les Français, ça ressemble un petit peu à l'émission où il y avait Dominique de Dieuleveux qui disait, qui faisait des... Oh non, t'es trop jeune, Annelle.
J'ai pas.
Mais j'écoutais ça aussi, c'est une émission française.
Ouais.
Super intéressant.
Ben, Denis Villeneuve a participé.
Ben écoute, on peut l'en nommer
plein.
Masbourian, Philippe Falardeau.
Ouais, tout à fait.
Beaucoup d'autres.
Moi aussi, je suivais ça religieusement.
Ah, c'était tellement bon. Je suis même allée l'année où Denis Villeneuve a eu son prix, puis deux fois que je suis allée à la remise des prix. Donc, bref, bon, je ne vais pas me vanter. Bon. Les films de Hugo ont été sélectionnés dans les plus prestigieux festivals, les amis, de Cannes à Hollywood, en passant par l'IDFA, le Nyon, le TIFF et Sundance. Ils se sont mérités de nombreuses distinctions dans une dizaine de prix, dont une dizaine de prix Gémeaux, un prix Jutras qui ne porte plus ce nom maintenant, et une vingtaine de prix internationaux. Il est aussi connu pour ses engagements politiques et ses positions toniques sur les questions sociales, culturelles et écologiques. Puis je pense que cette série-là fait le tour des sujets qui lui importent beaucoup. Il est actuellement directeur général du Festival de cinéma de la ville de Québec. Ben oui, parce que Hugo vit maintenant dans le bas du fleuve, comme on dit. Il aurait acheté un édifice patrimonial, puis c'est ça. Il habite dans ce coin-là, puis il est sur le bord du fleuve. Ben nous aussi, à Verdun, on est sur le bord du fleuve, on habite à Verdun. Mais bon. Puis moi, je trouve qu'il devrait être notre ami. J'aurais aimé ça qu'il soit ici avec nous ou qu'il vienne nous voir un de ces jours. Mais on va lui parler donc en deuxième demi-heure. Puis, je reviens à mon équipe. Là, j'ai le temps. Je pense que je peux en parler du bonheur. Le bonheur, c'est difficile, c'est vrai. J'ai tellement lu tous les trucs. C'est la musique, c'est ma famille. Moi, mes enfants, mon chum, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Quand je les ai pas proches, J'ai un manque. Il me manque quelque chose.
Est-ce que Rosemont, c'est assez proche?
Rosemont, bien, si j'y suis en même temps que toi, okay, c'est... Mais c'est ça. La famille, pour moi, c'est hyper important. Mais c'est aussi la nature. Dans la série, il parle d'océan. Mm-hmm. C'est probablement le fait qu'il reste justement sur le bord du fleuve que l'eau a de l'importance. Puis moi, s'il y a un endroit... où on dirait que je sens que j'ai ma place sur la terre, c'est sur l'eau. Même dans l'eau. Je me souviens d'un lac où il n'y avait pas de bateau moteur, où je nageais longtemps, tranquillement. Être à le contact de l'eau, j'aime tellement ça. J'aime la boire, j'aime la sentir, j'aime l'eau. Je comprends, j'ai beau être je ne suis pas un signe d'eau.
Non, pourtant.
Je suis un signe de terre. Mais pour ceux qui croient à ça, là, moi...
C'est quoi ton signe?
C'est vierge.
Ah.
Ouais. Comme ton poupa. Puis là, ben c'est ça. Il aime l'eau. Puis là, je me sens à ma place. J'ai fait du voilier pendant quelque temps. Je fais partie d'un club de voile. Puis moi, là, m'occuper du gréement, me tenir après le mât ou bedon après la bombe, puis... juste aller tranquillement sur l'eau. Ou, quand ça, c'était le fun, on lançait un câble à l'eau, puis on se laissait traîner par le voilier. Oh, c'était le bonheur. C'était franchement...
Regarder le fleuve. Juste regarder le fleuve. Oui. La marée qui monte, surtout quand on va dans le bas du fleuve ou dans Charlevoix.
Oui.
Moi, j'ai passé mes vacances là à l'automne, puis juste regarder le fleuve assis, là, puis à le voir monter qui s'en vient à nos pieds.
Mm-hmm.
Le spectacle, pour certains, est tout le temps pareil, mais pour moi, c'est pas pareil. Il y a un bateau qui passe, il y a un oiseau qui est là. Mm-hmm. Oh, peut-être qu'il y a une baleine qui va sortir.
T'sais. Moi, j'en ai vu une à Saint... je sais plus quoi, là.
Mais c'est zen, mm-hmm. regarder l'eau, autant que regarder un feu, que... Mm-hmm.
Ben, moi, particulièrement l'eau. Alors, je comprends très, très bien son intérêt pour la chose. Et puis, ben, y a aussi d'autres. Je regardais une autre émission qui, je trouve, qui se marie bien dans l'esprit de cette émission-là qui s'appelle La Grande Démission. Puis, mm-hmm. il parle de ceux qui ont démissionné de l'enseignement ou de la santé, puis tout ça. Puis, il y a une enseignante qui, depuis qu'elle a cessé de travailler parce qu'elle a fait... elle est obligée de faire... Ben, c'est ça. Ouais. Ben, elle se promène en forêt, puis juste être dans le bois, toucher à un arbre, même l'enlacer, le bien que ça fait, c'est incroyable.
Ouais.
Quand on est revenu du Saguenay, un mélange des deux, on descendait le Saguenay, puis j'étais incroyablement étonnée que ce ne soit pas inscrit. Vue panoramique, c'est une des plus belles vues que j'ai vues dans ma vie.
Mm.
C'est incroyablement beau. On voit la rivière, on voit les montagnes, la forêt. C'est de toute beauté. La nature, c'est procure énormément de bonheur. Est-ce que c'est possible en ville de ressentir ça?
Ben oui, au Mont-Royal.
Ouais. Ben, on retourne en forêt.
Ben oui,
on retourne en forêt.
Mais
sur le bord du fleuve aussi.
Oui,
oui.
Ouais, c'est pas la même chose. On dirait que j'essaie de vous faire des liens dans ma tête. Tu sais, je parlais d'une bibliothèque tout croche parce que c'est plein de sens puis faite par des gens. La nature, c'est un peu ça, tu sais, dans le sens où c'est un endroit où partout où tu regardes, il y a des choses à découvrir puis des créatures à rencontrer. Puis là, je me dis, mettons, la ville, peut-être qu'il y a une manière de la façonner un peu comme une bibliothèque à découvrir puis de se demander, genre, quelles villes sont plus habitables, lesquelles sont faites pour être explorées plus que comme traversées.
Ouais.
Mais quand tu marches, tu découvres plein de choses.
Ah, c'est fou, c'est ça que
j'allais dire. Les corniches, l'architecture des maisons, les escaliers. Mm. Il y a des rues qui sont super belles, la rue Laval, le carré Saint-Louis.
Mm-hmm.
C'est des choses qui sont vraiment belles à regarder mm-hmm. quand tu t'arrêtes, là.
Pas le boulevard Taschereau, par exemple.
Non, c'est sûr.
Mais c'est marrant que tu parles de bibliothèque, parce que j'étais en train de réfléchir au lieu dans la ville où je me sens vraiment bien, où j'ai du bonheur. Et la bibliothèque mm-hmm. en fait partie. Je passe énormément de temps à la BANQ, je peux y aller pour lire des BD ou juste m'asseoir.
Mm-hmm.
Et je trouve que c'est très agréable. Les cinémas aussi. Mm. Je trouve que la ville offre des lieux de plénitude assez impressionnants.
Tu as bien trop raison, c'est vrai. Mm. Un bon film où tu oublies où tu es, puis tu embarques dans l'histoire. Oui,
tout à fait.
Oh, c'est vrai, mon Dieu. On va écouter un peu de musique. Elle est peut-être moins... c'est Berry qui chante Le Bonheur, qu'elle essaie d'attraper, elle y croit ou pas. On écoute.
N'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas, ni ici, ni ailleurs. Nous allons mourir demain. Ne dites plus rien. Le bonheur conjugal restera de l'artisanat local. Laissez-vous aller le temps d'un baiser. Je vais vous. Il est juste là, à nos pieds dévoilés. Il nous ferait presque tomber. C'est dommageable qu'on ne vive qu'une seule fois. C'est le temps d'une joie qui s'offre comme vous à moi.
laissez-vous aller le temps d'un baiser. Je vais vous aimer. Un peu de sel dans la mer ne changera rien. On s'adore, on s'enterre, on trouve une main et on serre. N'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas. Da-di-da-di-da, da-di-da. Laissez-vous aller le temps d'un baiser. Je vais vous.
Insatisfaction face au service scolaire, violence à caractère sexuel concernant un élève. Quand ça se produit, le protecteur national de l'élève est là pour veiller au respect des droits des élèves et de leurs parents. Ce nouvel acteur dans le système d'éducation du Québec offre un recours facile d'accès et garantit un processus simple et rapide. Il permet de porter plainte tout en offrant un traitement rigoureux, digne de confiance et équitable. Rendez-vous sur québec.ca/droit-élève pour en savoir plus. Le protecteur national de l'élève, l'Ombudsman de l'éducation.
Le balado Les solutions climatiques de la COP Carbone a pour objectif de lutter contre les changements climatiques, une conversation à la fois. On s'engage à réfléchir, à sensibiliser et à agir ensemble, une fois par mois, jeudi 11h. Depuis 2011, la COP Carbone mène son action à partir de quatre piliers, l'empreinte carbone, la biométhanisation, le bâtiment et la mobilité durable. Ce balado sera animé par Géraldine Cadier-Mirales, Maya Saloum et Olivia Vu, toutes trois conseillères à la Coop Carbone. C'est un rendez-vous jeudi 11h.
Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour La Cabane à Contes, l'émission où on vous raconte des histoires.
La devise qui nous soutient n'est plus Québec, je me souviens. On va hurler et déconner pour dénoncer la société. Avec nous, souvent ça dégénère. Dans le monde, il s'en passe des affaires. Sous le signe des moustiquaires, on a
les trois moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBL.
Akinde seboyo azalaki na posa ya baninga asekisa yo. Anana seboyo azalaki na posa ya baninga basolola maweleki ye amipwaki yo kolo ya ndako yekondekete mawa elekaki ye apumbwe o bandeko bazangi ye seboye o
des fois le bonheur il suffit d'une phrase d'un mot oui le bonheur juste un sourire un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase d'amour. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Anana, c'est boyeo. Azala qui n'a pas sa ya baninga. Basoli sa ye. Akende, c'est boyeo. Azala qui n'a pas sa ya koseka. Na baninga. Mawele qui est à Pumbwe. Ikolo yanda koye konde kete. Pashe le kiliye akeyo. Mawana motema to kolo banini yo. Des fois le bonheur, oh ma, suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, yeah. Juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, oh. Il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, suffit d'une phrase, d'un mot.
Je les entends. Écoutez, c'était Lokua Kanza qui chantait « Le bonheur ». Je disais à ma gang que c'était difficile de trouver des chansons sur le bonheur qui étaient de bonne humeur. Bienvenue, Hugo Latulippe. J'espère que vous Bonjour. Allez bien.
Ben oui, ça va bien. Merci. Et vous?
Oui, ça va très bien. Oui. Est-ce que vous ressentez le bonheur? On a apporté des bulles pour ça, nous.
Ah ben, j'aimerais mieux être en studio, alors.
C'était un petit peu ça qu'on essayait de faire. J'ai même acheté un petit bibelot, là, mais un jour, on se croisera. Et je vous le donnerai.
Oui. D'accord.
Alors, on s'est posé des questions. On a répondu à la question. Ben, en fait, c'était même difficile d'établir quelle est la meilleure question pour parler du bonheur. Mm. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une définition? Est-ce qu'il y a des ingrédients? Et tout ça. J'imagine que vous êtes passé par toutes ces facettes-là pour lors de votre l'élaboration de votre série. Puis, ben, on va y aller parce qu'il y a tellement de sphères. Puis, vous avez des sphères disparates les unes des autres. Vous avez été à plusieurs endroits qui se distinguent par leur richesse ou par leur résilience. Première question, est-ce qu'on aura la réponse à la question « Le PIB est-il gage de BIB? »
Ben, la réponse est assez simple, en fait, parce que si on regarde les 5 premières économies du monde, elles se classent très, très mal dans ce qu'on appelle le World Happiness Report, le rapport annuel du bonheur qui est commandé par les Nations Unies, alors que certains pays plus modestes, dont certains pays du Sud, se classent plutôt bien selon les spécialistes du bonheur.
Oui, j'ai lu plusieurs livres de Hugo... Voyons, comment il s'appelle? Un autre Hugo?
Un autre Hugo.
Non, Bruno Blanchet. Bruno Blanchet.
C'est même pas un Hugo.
Puis qui disait qu'il n'en venait pas quand il allait dans des pays où les gens vivaient très pauvrement, le recevaient avec un sourire et une générosité incroyable, contrairement à d'autres. Il me semble qu'il y a une corrélation ici.
Oui, bien, c'est assez commun de le penser ou de le dire maintenant, mais... c'est maintenant appuyé par la science. Là, les gens qui sont derrière ce rapport annuel du bonheur, ce sont essentiellement des économistes des quatre coins du monde, des gens de la London School of Economics, par exemple, mm-hmm. qui ont déterminé, donc depuis une dizaine d'années que ce rapport-là est publié, que la première variable du bonheur des peuples à travers le monde, c'est le coefficient de communauté dans notre vie, c'est-à-dire est-ce qu'on a des amis, une famille, un village, une société autour de nous. Et ça, ça précède l'argent et le matériel. Ça peut avoir l'air surprenant. C'est pas qu'on évacue l'argent ou le matériel de l'équation, mais ce n'est pas la première source de bonheur, certainement pas.
Mais quand on pose la question aux gens, c'est d'abord la famille, l'amitié, justement le réseau autour de soi qui rend heureux. Et pourtant, quand on la vit, notre vie, on ne tient pas compte de ça. C'est assez étonnant, ça.
Ben, il faut voir combien d'heures, combien de temps dans notre vie on consacre à la chasse à l'argent ou à la quête d'enrichissement ou de matériel comparé au temps qu'on consacre à nos proches. C'est là où peut-être que les pays du Sud, les communautés plus au Sud ou les communautés qui nous ont précédés d'ailleurs, les Premières Nations par exemple, ont peut-être une sagesse qu'on n'a pas ou qu'on a perdue.
Ah, ça, c'est clair. Mm. Donc, ce qui distingue les pays où on reconnaît un PIB supérieur, c'est donc pas la richesse, on s'entend, mais qu'est-ce qu'il y aurait d'autre?
Alors, avant l'argent et le matériel, donc dans ce fameux rapport là, qui est un peu notre base scientifique pour la série qu'on a tournée, il y a aussi la santé du corps et la santé de l'esprit, donc la santé mentale puis la santé physique, qui précède aussi l'argent dans les variables. On décline ça, là, nous, dans notre série, en 10 chapitres. Il y a l'accès aussi à la nature sauvage, à quel point on est en lien, puis on vit notre vie en cohérence avec le reste de la biologie. L'argent fait partie aussi des chapitres de notre série, un chapitre qu'on appelle la richesse, là, donc qui va être diffusé d'ailleurs mardi prochain.
Qu'on ne manquera pas.
Alors, si cette semaine-là, mardi dernier, c'était la première soirée, les gens qui veulent voir l'épisode en rattrapage, là, il est sur le site de TV5 Uni. Mais la semaine prochaine, donc mardi 20h sur TV5, on clutche avec la richesse. Là, on commence à rentrer dans les grandes questions.
Mm-hmm. C'est quand même étonnant qu'il faut toujours... Je ne sais pas si c'était votre but d'aborder ça comme un thème sur la richesse, mais pour convaincre le Nord-Américain, en tout cas le libéral, le capitaliste, il faut tout le temps lui montrer un petit peu, regarde, c'est rentable, ça m'agace énormément, mais il y a des preuves, là, c'est explicite dans l'émission, là.
Ben c'est ça qui est intéressant, puis c'est pour ça que dans la série, nous on est des documentaristes, notre métier, notre sport, c'est d'incarner la science ou la connaissance dans des histoires vécues sur le terrain, mais il y a aussi des faits objectifs de plus en plus avérés, là, puis c'est ça, les gens qui sont derrière ce rapport-là, ben c'est des économistes, des Américains, des Canadiens, des Anglais, des Coréens aussi. Des gens extrêmement cartésiens, rationnels, qui ont commencé à dire peut-être que le monde occidental fait fausse route avec son obsession du matériel et de l'argent, qui d'ailleurs, on le sait maintenant pour des raisons écologiques, là, nous détruit.
Mm-hmm. Oui, c'est ça l'affaire. Qui sont ceux qui disent que c'est... non, c'est pas ça ma question. je suis...
Tu lisais la mauvaise affaire.
Ben oui, je lisais la mauvaise affaire. Comment s'est fait le choix des pays visités? Bon, vous avez mentionné le fait que c'était la COVID, mais malgré ça...
oui, la COVID, il faut le dire, au départ, notre idée, c'était d'aller autant au sud qu'au nord. Moi, j'ai beaucoup tourné à l'étranger depuis 30 ans, puis oui. Je me fais un honneur ou enfin ça fait partie de mon éthique là, de dire on va essayer de donner la parole à des gens de toutes les conditions, de toutes les provenances, de tous les a priori. Là, la COVID nous a pas permis d'aller beaucoup au sud. La plupart des pays étaient fermés au moment où on a tourné cette série-là. Ça fait que finalement la contrainte a fait qu'on a dû comparer des oranges avec des oranges. C'est pas plus mal. On va beaucoup dans des sociétés qui ressemblent au Québec, dans le fond, dont certaines sociétés qui se classent très, très bien là, dans le rapport annuel du bonheur, comme la Finlande et l'Islande, qui font mieux que le Canada. Le Canada se classe, bon an, mal an, à peu près au 15e rang dans ce rapport-là. Mm. Le Québec, un petit peu mieux. On dit 10-11, mais la Finlande et le Danemark, par exemple, sont... ce bataille la tête là, depuis 10 ans. Donc le premier rang du bonheur. Puis ça, ben ça s'explique de toutes sortes de façons.
Oui.
Si on prend le modèle islandais, par exemple, ben on sait que l'égalité homme-femme là-bas, sur ce terrain-là, ils sont plus avancés que nous, pas mal plus avancés que nous, notamment au niveau de l'équité salariale. En Finlande, si je peux dire, si je peux résumer rapidement, ben on peut dire que ce projet de société-là des Finlandais est beaucoup organisé autour de l'idée d'équité, d'égalité. C'est vraiment la valeur cardinale de cette société-là. Chez les Danois, ce qu'on a suivi, c'est un peu leur démarche. Il y a 10 ans, le Danemark était un des pires élèves là, au niveau des émissions de GES. Ils produisaient à peu près toute leur électricité à partir du charbon. Puis en 10 ans, les Danois ont viré bout pour bout leur système. Le pays au complet, maintenant, fonctionne sur l'éolien. Puis ça, ben c'est assez phénoménal parce que tu sais, quand on dit que la transformation au niveau écologique n'est pas possible, ben là, c'est un pays au complet qui a viré en 10 ans. Faisant la preuve que c'est possible de changer notre mode de vie.
Mm-hmm. Oui, mais faut les convaincre. Puis là, j'arrive vers un terrain un petit peu pointu, la religion. Parce que je me souviens, en regardant tous les épisodes, il est question que ces pays-là sont protestants, qui est une... Moi, j'ai eu une église protestante près de chez nous, et je les voyais arriver une congrégation après l'autre. Ils sont très, grégaires, ils sont très communautaires. Il y a beaucoup d'entraide, puis c'est ressorti ça dans une des émissions, en tout cas, le fait qu'ils sont plus communautaires, tandis que nous, moins. Et c'est peut-être là le problème.
Oui, ben je suis pas du tout un spécialiste de cette question-là, mais pour avoir vécu quelques années dans un pays de tradition protestante, je dirais que... l'éthique individuelle, c'est-à-dire ce que chacun prend sur ses épaules dans sa vie quotidienne en regard du collectif ou de l'ensemble, est peut-être plus élevé ou plus au centre de la vie, je dirais. Puis c'est peut-être une chose qui est commune à tous ces États qui font très bien là, au niveau écologique, par exemple, les pays du nord de l'Europe. C'est effectivement tous des pays de tradition protestante. Bien que ce soit des sociétés laïques là, comme le Québec aujourd'hui,
oui, oui.
Mais il y a comme un fond culturel, effectivement, on a l'impression que les gens n'attendent pas que l'État ou le système ou les entreprises fassent le switch, mais le font tous eux-mêmes un peu à leur échelle dans leur vie.
Et je pense que là, il y a un doigt sur le piton, là. En plein, là.
Oui, il y a anguille sous roche, comme
oui,
on dit.
Exactement. Donc, c'est mieux ceux qui disent que c'est mieux de penser autrement, bien, c'est vraiment ça. Il y a un autre aspect qui m'a frappé en regardant les émissions, c'est qu'il y a beaucoup de... Vous faites de la méditation, il y en a beaucoup question avec Mathieu Picard, avec... oh mon Dieu, j'ai oublié son nom, je ne l'ai pas écrit.
Frédéric Lenoir.
Frédéric
oui,
Lenoir,
Mathieu
c'est
Ricard.
Ça. Puis, c'est ça, d'autres personnes. Et puis vous-même, le fait. Puis moi, je me demande si tout le monde est capable, parce que moi, mon hamster de tête, il y a TDAH. Je ne sais pas si je serais capable de le faire. Est-ce que c'est possible d'apprendre ça?
Bien, c'est pas mal la chose que tout le monde dit avant de commencer la méditation. On est tous un peu comme ça. De toute façon, il y a tellement de stimuli dans le monde dans lequel on vit que c'est bien normal d'être un peu TDAH, à mon avis. mais en fait, moi, avec cette série-là, je voulais pas nécessairement m'intéresser au bonheur individuel. C'était vraiment le bonheur collectif qui m'intéressait.
Oui, oui.
Mais en même temps, j'utilise ça un peu comme un fil rouge dans la série. Je me prête à quelques exercices, ça, la course à pied, qui sont de plus en plus universellement salués pour favoriser le bonheur, mais aussi l'équilibre dans la vie. Là. Puis ben, on découvre dans la série, entre autres, si je peux dévoiler un punch, que selon un grand neurologue là, qui suit Mathieu Ricard, puis son cerveau en particulier, dit que son cerveau, l'état de son cerveau au niveau biologique, a 15 ans plus jeune que le reste de son corps. Et ça, ça serait dû à la méditation. Pas n'importe quelle sorte de méditation, aussi une méditation que Mathieu Ricard a développée, là, qui appelle la bienveillance, qui est très simple, qui est juste un exercice de bienveillance envers le monde entier.
Mais très simple.
Quand c'est la science qui observe que les couloirs neuronaux dans le cerveau sont plus épais dans le cerveau de Mathieu Ricard que dans celui du commun des mortels qui ne méditerait pas, ben là tu te dis ok, ben il y a peut-être quelque chose là d'assez sérieux pour moi. Puis donc c'est un peu l'exercice que je fais. Je me dis ben je pense que j'ai des choses à apprendre de cette pratique-là.
Ben il y a une des choses qui nous titille ici à l'émission, parce que moi je suis une ancienne enseignante, mon fils il est un maître en environnement qui a fait sa maîtrise là-dedans, donc on a des soucis communs, je dirais, puis on a beaucoup parlé d'éducation et on est des fans d'enseigner la philo aux jeunes enfants, mais la méditation ça serait une sacrée bonne idée aussi, parce que on devra former les futurs Finlandais québécois et Danois québécois de ce monde-là et de tout le monde entier même.
Oui, ben il y a des systèmes scolaires, des systèmes d'éducation qui ont intégré d'ailleurs la méditation de manière assez large, entre autres en Colombie-Britannique, là, c'est très commun. Puis ben on a découvert que ça contribue à la concentration des enfants, au calme aussi, puis à l'estime de soi. Donc ça a plein de vertus, là. On n'est pas obligé de devenir des athlètes de la méditation comme Mathieu Ricard, mais d'intégrer ça à sa vie. Moi, je pense, par exemple, étant cinéaste, là, il y a un grand cinéaste américain qui s'appelle David Lynch, vous connaissez sûrement.
Oui. Mm-hmm.
Qui a écrit des livres sur la méditation, puis qui a toujours dit, ben moi ça a augmenté beaucoup mes performances de cinéaste de méditer. Et puis il a écrit un livre magnifique que j'aime beaucoup, c'est un de mes livres préférés qui s'appelle Catching the Big Fish, attraper le gros poisson. Mm-hmm. Autrement dit, il explique comment la méditation a justement amélioré son niveau de concentration. On parlait de TDAH tout à l'heure.
Mm-hmm.
Puis les performances de son cerveau. Fait que c'est assez intéressant.
Wow. Il ne faudrait pas que je prenne toute la place. Il reste 5 minutes à partager avec mes 3 acolytes. Je ne suis pas fine, hein? J'ai tout pris le temps. Alors, si vous avez des petits trucs, des choses à demander à Hugo?
Ben, moi, j'ai une question. Excuse-moi.
On
est plusieurs, en tout cas. Je vais me lancer. Tu as parlé de la course, puis ben moi, ça m'intéresse parce que j'aime courir aussi. Puis je me demande si... tu dis que tu t'intéresses surtout au bonheur collectif, mais mettons, à l'échelle d'une société, qu'est-ce qui... C'est parce que là, moi, mon rapport est individuel à la course, puis au bienfait que je constate que ça a sur mon bien-être mental et corps et physique. Mais à l'échelle d'une société, qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce que tout le monde court? parce que dans ma tête, je ne suis pas satisfait par, mettons, la posture de l'éducation de comme on fait tourner les enfants en rond dans un gymnase qui m'a traumatisé. Ainsi, mettons, une culture de la pratique de l'activité physique qui est saine? Puis, y a-t-il quelque chose que tu as vu, quelque chose comme ça?
Ouais.
Ben moi, ça m'apparaît vraiment la base là, d'apprendre aux enfants que la santé passe pas par la pharmacopée et les hôpitaux, mais par une éthique de vie. Bien sûr, on n'est pas tous égaux biologiquement, puis la maladie existe, puis on est content que la science aussi existe. Mais justement, j'entendais ce matin un groupe de médecins qui vient de publier un rapport qui dit, ben au Québec, il faudrait s'occuper de la santé des gens plutôt avant de s'occuper de la maladie. On est très concentré sur le coût du système de santé, puis sur tout ce qu'on investit en pharmacopée. Peut-être que l'éducation, la prévention, l'éducation aux saines habitudes de vie, ce serait peut-être la base. Moi, en tout cas, personnellement, dans ma vie, j'ai traversé des périodes plus difficiles psychologiquement ou des épreuves, puis je dirais que la course, moi qui me convient, là, qui est qui est le sport que j'ai choisi, m'a vraiment beaucoup aidé à garder un équilibre dans la vie. Puis la science nous le dit de plus en plus, que ce soit la course ou autre chose, mais d'être dehors, d'être dans les éléments, là où d'ailleurs 99,9% de notre histoire s'est passée. Là, comme,
ben oui, hein, c'est vrai.
comme être vivant, c'est très récent, la civilisation, les villes, les maisons. en tout cas, moi, ça contribue vraiment à mon bonheur, là.
France avait une question.
C'est une question, puis c'est en même temps quelque chose que je voudrais soumettre. Ici au Québec, à Montréal, moi j'ai regardé l'émission sur la musique, la première. Est-ce qu'il y a des endroits ou des places où on peut retrouver un peu le même genre de...
Comme en Espagne, là, la chorale?
Oui, c'est ça.
Oui.
Ben, je vais parler en fait d'une des histoires dans le chapitre sur la musique qui est El Sistema Grèce. El Sistema, là, si pour ceux qui connaissent pas ça, ça a été inventé au Venezuela. Puis l'idée, c'était d'introduire les enfants, surtout les enfants qui n'ont pas les moyens de faire de la musique, à la musique symphonique. Puis ce système-là, El Sistema, maintenant existe dans de nombreux pays. En Grèce, les gens qui ont fondé ça s'en servent pour intégrer les immigrants qui arrivent de partout. Là, souvent, la Grèce est la première porte d'entrée en Europe pour les enfants réfugiés. J'ai eu oui que un certain Raphaël Payaré là, et l'OSM étaient en train de mettre sur pied un El Sistema à Montréal.
Ah, OK.
Donc, c'est à suivre, là, mais je sais que c'est en route, cette affaire-là. C'est vraiment magnifique parce que l'idée, c'est pas de faire de chacun des enfants des solistes d'orchestre symphonique, mais de les intégrer à une société, de bâtir un projet ensemble. C'est peut-être le mot le plus important là, chez El Sistema. C'est cette idée de faire corps dans une communauté, une société. Puis là, ben, on revient à ma première variable du bonheur. Vous comprenez pourquoi j'ai intégré ça. C'est que être ensemble, avoir un projet commun, puis en plus faire de la beauté dans ce cas-là, ça rend heureux.
Oui. Mais Kate Nagano avait pas fait un groupe, une école, avait pas aidé une école à Montréal-Nord. J'ai assisté à un spectacle avec l'Orchestre symphonique de Montréal où ils faisaient jouer des enfants de toutes les nationalités qui arrivaient ici au Québec ou qui étaient moins nantis, justement. Puis il avait aidé une école, justement, à Montréal-Nord. Il avait parti ça. Puis,
Ça se peut. Ben, ouais. Raphaël Payaré est lui-même issu d'El Sistema.
C'est vrai.
Si je me rappelle bien, d'un milieu très, très modeste. Puis aujourd'hui, c'est un grand chef d'orchestre. Mais moi, ce que j'ai vu en Grèce, c'est des enfants qui arrivent souvent sans leurs parents en Europe parce que les parents se sont juste pas rendus, puis qui se retrouvent dans un groupe d'enfants qui structurent un peu leur arrivée, leur intégration en Europe. C'est vraiment un projet magnifique.
Mm-hmm. Merci. 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 Anaëlle, est-ce que tu aurais une question pour Rico?
Oui, tout d'abord, j'ai beaucoup aimé le premier épisode, le fait que ça soit sur la musique. Moi, ça m'a particulièrement fait écho. Je trouve que ça soulevait pas mal plusieurs points qui sont liés au bonheur, notamment, comme vous l'avez dit, l'aspect relationnel. On fait de la musique pour les gens, on fait de la musique avec les gens. Et je me demandais, comment est-ce que vous choisissez les thématiques des épisodes?
Alors, c'est vraiment basé sur les variables identifiées par l'équipe du World Happiness Report, sauf quelques exceptions, comme dans le cas de la musique, et ça ne figure pas dans le rapport annuel du bonheur, mais c'est un peu notre invention. C'est là où la série est un projet d'auteur. Moi, j'avais cette intuition-là que la musique, puis surtout la musique en groupe, la musique d'ensemble, que ce soit chorale ou symphonique, est favorable au bonheur. Moi, c'est une chose que j'ai observée. Je suis pas musicien moi-même, mais j'ai tourné beaucoup dans ma vie avec des musiciens et j'ai l'impression que cette condition-là, cet état de faire de la musique avec d'autres est favorable au bonheur. Ça fait que c'est une petite digression scientifique dans notre projet, mais Mais je suis assez content. J'ai l'impression que l'épisode dit bien, enfin, relève le défi là, de l'intuition.
Mais on retrouve ailleurs aussi de la musique, de, je pense, c'est de, quand on parle de regroupement ou quelque chose, si je me trompe pas.
Dans la série, oui, on a tourné un autre chapitre complet.
En Afrique du Sud.
Exact.
Oh mon Dieu, j'avais les larmes aux yeux. C'était tellement beau, là.
Ça, c'est une des plus belles histoires qu'on a tournées avec le chœur Stellenbosch, qui rapidement était un chœur exclusivement blanc jusqu'à la fin de l'apartheid. Il faut savoir que c'est un chœur qui est très, très connu. C'est probablement le chœur qui a gagné le plus de prix de chorale dans le monde. Puis, depuis l'apartheid, le chef donné comme défi d'en faire le reflet de la société sud-africaine, mm-hmm. donc de diversifier la provenance des gens. Puis aujourd'hui, il y a 12 ethnies, en fait, d'origine, là, mm-hmm. qui constituent le chœur. Ils chantent dans toutes ces langues-là. Puis le chef dit, d'un point de vue plus technique, il dit ce qui fait la beauté et la richesse de ce chœur-là, c'est la diversité des cordes vocales. Et qui dit, en allant chercher des gens de tous ces backgrounds-là, ben le son qu'on produit est unique au monde et il n'y a pas un chœur qui rivalise avec nous au niveau de la diversité. Mmh. Donc, c'est vraiment une sorte de chœur métaphore de l'histoire de l'Afrique du Sud.
Si vous saviez comment ça tombe à point, parce qu'Alexis va participer à un récital ce samedi. Il fait partie d'une chorale.
Je rejoins pour les raisons qu'on nomme. Je voulais une chorale parce que ça fait du bien. Puis c'est incroyable de hurler à plein poumon une note avec 60 personnes puis faire une harmonie.
C'est sûr.
Incroyable comme sensation.
Quelle chance. Je souhaite ça à tout le monde.
Ouais.
Il y a une chorale qui existe ici à Montréal qui s'appelle Cœur de loup, justement. Puis j'ai été faire une belle expérience avec eux où on y va n'importe quand on veut. Tu n'es pas obligé de savoir chanter. Mm. Ils font des trucs à trois voix. Puis au début, on fait une expérimentation. Puis après ça, à la fin, on chante la chanson tout le monde ensemble et c'est vraiment génial.
Hey, il va falloir conclure comme ça. Ça passe tellement vite, ces missions-là. Ah, il va falloir revenir, monsieur La Tulipe. Peut-être à la fin de l'émission, quoi.
Ça m'a fait plaisir. J'invite tout le monde à regarder ça les mardis
20h. Absolument. Oui. Faudra pas manquer ça.
Comme on dit dans un trailer américain, there's more to come.
Hey, bonne. Retournez chez vous, regardez le fleuve dans votre beau coin de pays. Et puis, à une prochaine. Merci infiniment de votre présence avec nous.
Merci.
Merci. Bonne journée à vous tous.
Merci. Bye-bye. C'est le temps des nouvelles sportives avec Julien.
Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du 58e Super Bowl qui arrive à grands pas. Il opposera les 49ers de San Francisco aux Chiefs de Kansas City. Ils se sont déjà affrontés en février 2020. Les Chiefs en sont sortis gagnants. D'ailleurs, le célèbre joueur Laurent Duvernay-Tardif jouait pour cette formation. En plus du sport, le Super Bowl est un événement très populaire avec ses publicités, également le spectacle de la mi-temps et la possibilité de présence de Taylor Swift pour cette année.
Hey, merci Julien, encore passionnant ta nouvelle du sport de la semaine.
Merci, bye.
La semaine prochaine, on a de la visite. Manquez pas ça, on va parler de culture. Fait qu'on vous souhaite un très, très belle fin de semaine. Merci beaucoup à tout le monde ici. Merci Maurice. Ne manquez pas son émission tout de suite après. Bonne fin de semaine tout le monde. Bye.
Vous êtes locataire et avez décidé de déménager? Assurez-vous d'avoir signé un nouveau bail avant de résilier votre bail actuel. N'attendez pas. Commencez votre recherche de logement dès maintenant. De plus, si vous êtes à faible revenu, vous pourriez recevoir jusqu'à 170 $ par mois pour vous aider à payer votre loyer grâce au programme Allocation Logement. Pour en savoir plus ou pour obtenir de l'aide dans votre recherche de logement, visitez québec.ca/recherche-logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.
Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 $ en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour La Cabane à Contes, l'émission où on vous raconte des histoires.
Cette émission est une reprise.